Donc la violence dans les campagnes, donc, pendant l'Ancien Régime, qui est une violence qui, à mon avis, est souvent perçue de façon inexacte. Je crois que Michel Nassy est venu il n'y a pas trop longtemps, qu'il a dû vous parler aussi de violence, aussi, je suppose. Moi, je vais situer sur un autre plan que lui. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il écrit, mais je suis pas. Enfin, je vois les choses sous un autre angle, tout simplement. Bon, on a une idée reçue qui est que les sociétés anciennes, et notamment modernes, sont beaucoup plus violentes que la nôtre. Une idée qui a été amplifiée par un certain nombre d'ouvrages, et le plus célèbre d'entre eux est sans doute celui d'un sociologue, Norbert Elias, qui était allemand. Vous connaissez certainement son ouvrage sur la civilisation des mœurs, les théories qu'il a développées. Et en gros, d'après lui, la violence était omniprésente dans les rapports humains, notamment dans les campagnes jusqu'au XVIIe siècle. Et puis, elle a commencé à décliner à partir de ce moment-là, d'abord dans les catégories sociales dominantes, à la cour, à la ville, et ensuite, progressivement, dans les campagnes. Et les gens se sont mis à dominer leurs pulsions, disait-il, Norbert Elias, alors qu'auparavant, ils étaient tous frustes et rustres, et la moindre contrariété les faisait se taper dessus, en quelque sorte. Bon, je synthétise beaucoup la chose, mais en gros ça revient à cela. Donc, c'est une, Elias, ça date des années 30 ou 40, mais ça a été traduit en France beaucoup plus tard. Ça a beaucoup influencé un bon nombre d'historiens qui sont revenus sur ces questions dans les années récentes, dans les 20 dernières années, notamment avec les ouvrages de Robert Muchin-Blais, vous connaissez certainement, le dernier sur la question qu'il a écrit il y a 3 ou 4 ans, enfin qu'il a publié il y a 3 ou 4 ans, étant une histoire de la violence, mais il avait déjà travaillé là-dessus beaucoup. En 89, il avait publié La violence au village. L'ouvrage de Jean Quéniard, le Grand Chapeltou, qui date de 1993, et puis très récemment, l'ouvrage de Michel Nassier, La violence, une histoire sociale. Bon, ils ont tous l'idée, qui est peut-être vraie, mais peut-être pas, enfin, on va le voir tout à l'heure, que la violence a beaucoup décliné entre le XVIe siècle et le XVIIIe siècle, mais ils n'ont pas la même explication du phénomène. Pour Robert Muchin-Blais, ça tient essentiellement à l'action coercitive de l'État et de la justice, appuyée par les chefs de famille, pour l'essentiel. Bon, pour Michel Nassy, il a dû vous l'expliquer longuement la dernière fois, donc vous le savez aussi bien, sinon mieux que moi, ça viendrait, cette chute de la violence, du délitement des solidarités familiales, qui fait qu'on a moins besoin de défendre l'honneur familial, donc de se battre pour cela. Bon. Je pense d'ailleurs qu'entre Muchin-Blais et Nassier, les deux hypothèses sont pas, enfin, ne s'excluent pas forcément l'une et l'autre, bon, même si chacun des deux pense que l'autre a absolument tort et qu'ils auraient du mal à se mettre d'accord. Bon, quand ils ne sont pas présents, on peut dire que l'un et l'autre disent des choses intéressantes et sans doute vraies, et que l'un n'a pas totalement tort et l'autre totalement raison, et réciproquement. Bon, moi je vais me situer sur un point de vue un petit peu différent, justement, en essayant de reprendre à la base le problème du chiffrage, la quantité de cette violence, pour vous montrer que les conclusions qu'on tire jusqu'à maintenant ne sont pas forcément évidentes, puis j'élargirai tout cela à un certain nombre d'autres problèmes. Donc je vais suivre très classiquement un plan en trois parties. Parfois je fais deux parties ou quatre parties. Je dis très souvent à mes étudiants qu'il ne faut pas faire trois parties systématiquement, mais je trouve qu'aujourd'hui ça correspond à ce que je veux dire. Dans une première partie, je vais essayer de vous montrer, enfin je vais appeler ça du quantitatif au qualitatif, vous verrez enfin dans un instant de quoi il s'agit. Après, je vous parlerai des catégories et des circonstances de la violence, qui est plus classique, et enfin de son utilité et de son traitement. Alors, premier problème, et c'est de là que tout part, en effet, enfin, première partie, du quantitatif au qualitatif, on peut aborder la violence de l'Ancien Régime de deux façons. Enfin, on peut faire les deux, ou bien une seule des deux façons, mais la première chose à faire, d'abord, c'est d'essayer de compter, de voir l'importance quantitative de cette violence. Pour ça, nous disposons d'archives extrêmement abondantes, en particulier les archives judiciaires, évidemment, avec les sentences, avec les procès quand ils ont été conservés, enfin les procédures quand ils ont été conservés, ce qui n'est pas si fréquent que cela, parce que très souvent les procédures ont disparu. Et quand elles ont été conservées, nous avons des moyens de savoir comment se passe la violence, de quoi elle naît et comment elle se déroule, grâce en particulier aux dépositions des témoins. Bon, bref, ça fait des centaines de kilomètres d'archives, au moins, c'est tout à fait considérable, et ça peut donner l'impression, cette masse d'archives, qu'on a des résultats fiables. Or, malgré la masse d'archives dont nous disposons, partout, dans tous les dépôts d'archives départementaux, nationaux, etc., les archives judiciaires sont extrêmement présentes, malgré tout cela, à mon avis, les résultats ne sont pas fiables, les résultats sont sujets à caution. Je crois que c'est une idée qui maintenant est assez admise parmi les spécialistes de la question, qui n'a pas encore vraiment débordé ces spécialistes. Et puis au-delà du milieu des historiens, alors là, il faudra quelques siècles, je pense, pour que cette idée passe. Mais bon, il y a une théorie qui a été développée dans les années 70 du XXe siècle, quand on a découvert ou redécouvert les archives judiciaires. Les archives judiciaires, on les a pratiquement pas utilisés jusqu'à la fin des années 60, jusqu'au début des années 70, sauf pour quelques affaires spectaculaires. Mais la masse des affaires banales, on s'en occupait pas du tout. C'est dans la foulée de l'histoire quantitative, donc qui naît, vous savez, dans les années 30 avec l'histoire économique, ensuite dans les 50, 60 avec l'histoire démographique, l'histoire sociale et tout cela. Bon, c'est dans cette ambiance-là que les historiens ont utilisé, à partir des années 70, les archives judiciaires. Et pourquoi avait-on autant attendu pour voir ces archives judiciaires? Parce que ce n'était pas dans l'air du temps. Et l'air du temps, il est venu avec les événements de 68 et tout ce qui s'est passé à ce moment-là. On s'est intéressé aux marginaux, on s'est intéressé aux délinquants. Et on s'est intéressé aux délinquants du moment, de 68, de 70. Mais les historiens sont intéressés aux délinquants d'autrefois, tout simplement. Donc ils sont allés voir les archives judiciaires sous l'impulsion de certains grands historiens, dont un illustre Canet qui était Pierre Chenu, évidemment. Et le roi La Durée aussi, un petit peu. Et les élèves de Chenu en particulier ont fait quelques travaux. Et Chenu en a tiré la conclusion qu'au XVIIIe siècle, il y avait un changement dans la criminalité et qu'on était passé de la violence au vol. En gros, en 1700, les Français, en justice, il y avait essentiellement, majoritairement, des affaires de violence. Et en 1780, par exemple, on était passé majoritairement des affaires de vol. Donc il y a eu un changement dans la criminalité. Et ce changement dans la criminalité, on l'expliquait à cette époque-là, dans les années 70, donc, par des changements dans les mentalités des gens, une éducation plus poussée, enfin, un apprentissage de la domination des pulsions. Ça recoupait un petit peu la théorie de la civilisation des mœurs, mais sous un emballage plus moderne, quoi, tout simplement. Et puis cette théorie, donc, le passage de la violence au vol, elle a eu un grand succès pendant un bon nombre d'années. Jusqu'au jour où certains, dont moi, ont pensé que ce n'était pas forcément juste et valable parce qu'on avait utilisé des sources qui étaient biaisées. Ces sources qui étaient biaisées, c'était en fait les archives des parlements. Alors, je ne sais pas ce que vous savez de l'organisation judiciaire de la France d'Ancien Régime. Enfin, je pense que vous savez. D'accord. Donc j'explique. Donc, comme celle de la France d'aujourd'hui, il y a une hiérarchie des tribunaux. Donc, il y a les tribunaux à la base, justice seigneuriale, au-dessus, rapidement, en simplifiant, au-dessus, il y a les bailliages ou sénéchaussées, c'est la même chose, mais ça change de nom selon les régions. Au-dessus, il y a les présidiaux, et au-dessus, il y a les parlements. Les parlements sont les justices, sont les juridictions d'appel, comme nos cours d'appel aujourd'hui. En théorie, la plupart des affaires sont susceptibles d'appel. Donc, on a considéré, dans les années 70, Chenu et ses élèves et quelques autres ont considéré que si on se contentait des archives des parlements, on aurait finalement en appel tous les procès jugés plus bas. Donc, c'était commode, on pouvait faire une histoire sérielle, pour reprendre l'expression chère à Chenu. Donc, en prenant toutes les sentences, et en particulier, il y a toujours un document extrêmement commode à Paris qui concerne le Parlement de Paris. Le Parlement de Paris était compétent au XVIIIe siècle pour plus du tiers du royaume. Donc c'était énorme. Donc c'était un registre qui s'appelle l'inventaire 450. En fait, c'est une dizaine de registres qui, avec des colonnes. On a les noms des gens qui ont été jugés. On a le crime qu'ils ont commis. On a la sentence en première instance. On a la sentence en appel. On a leur âge, leur profession, etc. Donc c'est formidable, ça. Même à une époque qui était antérieure aux ordinateurs, ça permettait d'aller très très rapidement et de voir et de faire des statistiques extrêmement, extrêmement rapidement. Donc c'est en se fondant sur ces archives des parlements, donc des tribunaux d'appel, qu'on est arrivé à cette conclusion du passage de la violence au vol. Or, ces tribunaux d'appel, en réalité, ne recevaient qu'une partie de ce qui avait été jugé en première instance, dans la mesure où il y avait une évaporation extrêmement importante qui tenait à plusieurs raisons. Premièrement, quand une procédure criminelle commençait dans un tribunal à l'époque, elle n'arrivait à son issue jusqu'au bout que dans des cas très minoritaires. Au maximum 20% des cas, sans doute même beaucoup moins que cela. Parce qu'entre le dépôt de la plainte et la sentence finale, il y a toute une série d'étapes, et ces étapes permettaient de sortir de la procédure plus ou moins rapidement. On en sortait parce que le crime n'était pas assez prouvé, donc on arrêtait l'instruction. Dans la France d'Ancien Régime, on ne peut condamner que quand on a des preuves rationnelles, c'est-à-dire un aveu ou des témoignages directs. L'intime conviction, ça ne doit pas exister. L'intime conviction, c'est depuis la Révolution, mais on ne pouvait pas avant la France d'Ancien Régime. Donc si le juge qui fait l'instruction se rend compte qu'il n'y a pas assez de preuves, il arrête la procédure. S'il se rend compte que le crime n'est pas si grave que ça, eh bien, il arrête la procédure, il la transforme en procédure civile. Et là, on va avoir une amende et c'est tout, puis ça ne sera pas extrêmement grave. Si l'accusé admet sa culpabilité, eh bien, on arrête la procédure, on négocie avec l'accusé, et puis voilà, on donne une peine moins importante. C'est la même chose qu'actuellement aux États-Unis, où au moins 90% des procédures s'arrêtent avant la fin. Il y a une négociation entre le procureur et l'accusé et son avocat, et on arrête comme ça. Bon, bref, ça veut dire que si on se contente de regarder ce qui est arrivé jusqu'au bout, et en plus qui est parti en appel, parce que l'appel était théoriquement obligatoire, mais en fait, ce n'était pas appliqué dans un grand nombre de cas, on a finalement qu'au maximum 5 à 10% des procès engagés qui arrivent finalement en appel. Donc, quand on travaille sur les appels en se disant « ça représente tout », mais en fait, ça ne représente que 5 à 10% de la réalité de ce qui a commencé à être jugé. Bon, et pire encore, ce qui a commencé à être jugé, c'est quelque chose, mais ce n'est en soi aussi qu'une partie de la réalité criminelle. Hier comme aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le chiffre noir de la criminalité, qui fait qu'une grande partie, alors combien, on ne le saura jamais, mais une proportion notable, sinon très importante, et à mon avis majoritaire sous l'Ancien Régime, des illégalismes, comme disait Michel Foucault, enfin des crimes commis, ne va jamais en justice. Ça ne va jamais en justice parce que les gens ne portent pas plainte, parce qu'ils ont peur de les personnes qui les ont agressées, par exemple, ou bien surtout parce qu'on préfère régler les choses entre soi, au sein du village, en faisant appel éventuellement à un arbitre qu'on a choisi soi-même au sein du village, et je reparlerai tout à l'heure dans ma troisième partie, pour régler les choses entre soi, ce que nous appelons, d'un terme pas très élégant, ce que nous appelons l'infrajustice. Et une partie très importante, sinon majoritaire, des comportements violents dans la France d'Ancien Régime, dans les campagnes d'Ancien Régime, encore plus qu'en ville, sont réglés par ces processus d'infrajustice et non pas par des procédures judiciaires. C'est d'autant plus facile à faire que la justice est peu présente dans les campagnes. Enfin, elle est très présente et en même temps, elle est relativement peu. Chaque village correspond à peu près à une seigneurie, bon, avec des nuances. Et chaque seigneurie a une justice seigneuriale. Et les juges seigneuriaux de l'Ancien Régime, surtout au XVIIIe siècle, où on les connaît le mieux, en général, sont des citadins. Donc ces citadins, ils viennent, et un juge seigneurial, il est juge de 5, 10, 15 seigneuries en même temps, en général. Donc il vient dans chaque village, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois. Et il n'a connaissance que des crimes que les habitants, que les que les villageois veulent bien lui faire connaître. Mais tout ce qu'ils veulent régler entre eux, ben ça reste de leur propre domaine. Le juge n'en a pas connaissance, ou bien il ne cherche même pas à en avoir connaissance, d'ailleurs, parce qu'il sait très bien que si on n'a pas voulu lui en parler, eh bien, il n'aura pas les témoignages nécessaires, donc il ne pourra pas poursuivre l'affaire. Bon, bref, je pourrais continuer longtemps là-dessus. Je vais vous montrer simplement que ce qui arrive en appel, dans ce qu'ont vu les élèves de Chenu et puis d'autres après qui ont suivi les mêmes perspectives, ne correspond qu'à une toute petite partie de la réalité. Et en fait, ce passage du vol, ce passage qu'on a cru de la violence au vol, de la criminalité contre les gens à la criminalité contre les biens, en fait, elle ne révèle pas un changement de la réalité criminelle, pas le moins du monde, elle révèle simplement un changement des priorités répressives de la justice. S'il y a plus de vols jugés en 1760 qu'en 1700, c'est essentiellement parce qu'il y a une sensibilité plus forte au vol en 1760 qu'en 1700. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus de vols en 1760 qu'en 1700. Si on juge depuis en France beaucoup, par exemple, les crimes de pédophilie depuis une dizaine d'années, alors qu'on s'en fichait complètement il y a 30 ou 40 ans, c'est pas parce que les Français sont devenus pédophiles en 2000 alors qu'ils l'étaient pas en 1960, c'est parce que la sensibilité de la population est plus choquée par la pédophilie en 2000 ou en 2010 qu'en 1960, pour des raisons sur lesquelles il faudrait essayer de revenir, mais bon, ça c'est pas évident à savoir forcément. Donc ce que je veux dire, c'est que le point où je veux en arriver, c'est que toute étude quantitative de la violence dans la France d'Ancien Régime est forcément biaisée par le fait que les sources ne nous rendent pas, ne sont pas le miroir fidèle de la réalité criminelle. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de baisse de la violence, mais je ne dis que rien ne prouve la baisse de la violence. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de hausse de la violence, je dis que rien ne prouve la hausse de la violence. Je dis simplement qu'on n'a pas les moyens les moyens scientifiques, c'est un peu gros comme terme, mais les moyens fiables, disons, de prouver cette baisse de la violence. Alors, tout le monde en est conscient aujourd'hui parmi les spécialistes de ces questions. Tout le monde dans ses livres, je pense à Michel Blé et à Nassier, justement, à leur récent livre, même s'ils ne sont pas du même avis, les deux sont parfaitement conscients de ces difficultés de compter, cette impossibilité de compter, mais une fois qu'ils l'ont dit, dans leur premier chapitre en général, eh bien, ils concluent, malgré tout, la violence a baissé. Seulement, moi je veux bien, c'est du domaine de l'intime conviction. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut véritablement prouver, à mon avis. Alors, puisqu'on peut pas prouver, puisque le quantitatif ne fonctionne pas, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire du quantitatif. Quand on fait de l'histoire de la violence ou du vol ou n'importe quoi, il faut compter au départ, mais il faut critiquer ce qu'on a compté, et il faut bien être conscient que ça nous donne, que les chiffres nous donnent la politique répressive, la politique judiciaire, la volonté des juges, donc de la population, en réalité, derrière, mais pas la réalité criminelle. Hier, comme aujourd'hui, d'ailleurs, de toute façon, et les statistiques qu'on nous donne aujourd'hui en nous disant la criminalité a baissé ou la criminalité a monté, des choses comme ça, il faut absolument pas le croire le moins du monde. C'est des choses qui sont construites en fonction des moyens qu'on donne à la police, par exemple, ou à la justice, mais ça ne correspond pas du tout à la réalité criminelle, qui reste toujours, pour l'essentiel, quelque chose d'impossible à appréhender. Alors, si toute mesure est impossible, heureusement, il nous reste des choses à faire malgré tout, et notamment une approche qualitative qui est possible. Donc le quantitatif me semble difficile, voire impossible. Le qualitatif, en revanche, me semble possible. C'est-à-dire que même si nos archives ne sont pas révélatrices de la masse, de la quantité de la violence, elles sont quand même assez nombreuses pour nous permettre de voir comment ça fonctionne, la violence, dans la France rurale de l'Ancien Régime. Disons que ça correspond. Enfin, les archives qu'on a, c'est un énorme sondage, quoi. C'est un sondage qui correspond peut-être à 30 ou 40 ou 50 % ou 20 %, je ne sais pas, de la réalité violente de la France d'Ancien Régime. Aujourd'hui, on fait un sondage sur 500 ou 600 personnes pour nous donner les avis de 60 millions de Français. Donc là, je crois qu'on a une représentativité qui est beaucoup plus importante. Et quand on examine de près donc tout cela, grâce surtout aux dépositions des témoins, on s'aperçoit que cette violence, en général, elle a une intensité limitée dans les campagnes de la France rurale. Alors bien sûr, on pourra toujours sortir telle ou telle affaire spectaculaire, tel tueur en série, encore, on peut pas le prouver, les tueurs en série dans la France d'Ancien Régime, on pourra tel crime atroce, bien sûr, il y a toujours des crimes atroces ici ou là, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui est représentatif, ce qu'on voit le plus souvent, un bel assassinat dans un village normand ou bourguignon au XVIIIe ou au XVIIe siècle, on a peut-être un par siècle, si on a de la chance. Et encore, c'est même pas certain. En revanche, la violence qui intéresse les gens, la violence qu'ils subissent, enfin, ou qu'ils pratiquent, ou les deux en même temps, c'est une violence qui est beaucoup moins intense que cela. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, si l'assassinat était permanent, il y aurait plus grand monde assez rapidement, nous ne serions plus là pour en parler. Une violence qui ne recherche pas l'homicide dans la plupart des cas, qui n'utilise pas majoritairement des armes, ce qui prouve bien qu'on ne cherche pas à tuer la plupart des cas, qui se sert des armes naturelles, enfin les poings, les pieds essentiellement, ou éventuellement les objets qu'on a sous la main, tout simplement. Une violence qui, si elle ne recherche pas l'homicide, malgré tout, il y arrive quand même dans un certain nombre de cas, non pas parce qu'on l'a cherché, mais parce que les moyens de soigner les blessures à l'époque ne sont pas ceux que nous connaissons. Et la moindre blessure peut très facilement s'infecter. Il n'y a pas d'antibiotiques, c'est un autre monde au point de vue médical et chirurgical. Donc l'homicide, quand il se produit, la mort d'une victime, quand elle se produit, dans la plupart des cas, ça n'a pas été le but recherché. Le but recherché, c'est quelque chose qui fait appel au symbole, dans la plupart des cas. Derrière tout ça, il y a le problème de l'honneur. Alors, on en parlait pas mal la dernière fois, donc je ne vais pas trop insister là-dessus. Mais cet honneur, ce n'est pas simplement l'honneur familial, ce n'est pas simplement l'honneur du clan, c'est aussi l'honneur personnel, l'honneur qui peut être atteint notamment par les injures verbales. Et la pratique de la violence, elle cherche essentiellement à atteindre ce qui est dans le corps humain le siège de l'honneur, en quelque sorte, c'est-à-dire la tête ou ce qui est sur la tête. Donc le chapeau, vous savez que les gens de l'époque, hommes comme femmes, portent une coiffe d'une façon ou d'une autre, enfin, dans la plupart des cas. Donc la bagarre, par exemple, le but de la bagarre, très souvent, c'est simplement de prendre ou de faire tomber la coiffe, le chapeau qu'on a sur la tête. La tête, c'est l'endroit le plus noble du corps, et le chapeau qui est dessus fait partie de la tête en quelque sorte. Donc faire tomber le chapeau, c'est s'en prendre à un symbole extrêmement important. Pour les femmes, quand on voit des violences entre les femmes, ce qui est visé très souvent, c'est le ventre. Parce que bon, c'est le symbole de la fécondité, donc c'est ce qui est visé dans un grand nombre de cas. Les vêtements aussi sont souvent... on essaie de déchirer les vêtements, et le but ultime, finalement, c'est la mise à terre de l'adversaire. Donc mettre l'adversaire à terre, c'est symboliquement l'humilier, ainsi. Et puis, dans la plupart des cas, on s'en arrête. On arrête là le processus. Évidemment, la mise à terre, elle peut se faire violemment, ça peut entraîner un choc, une blessure, des choses comme ça, et ça peut mal se terminer ensuite. Mais cette violence, c'est pas une violence fruste, c'est pas une violence débridée, c'est une violence qui est dominée. C'est une violence que les jeunes enfants ont appris à gérer dès les premières années en voyant la pratique de leurs parents ou de leurs proches. Par exemple, le cabaret, des cabarets à l'époque, il y en a partout, hein, tous les villages ont leur cabaret. Enfin, cabaret, ça correspond au café aujourd'hui, sauf qu'on ne sert pas de café. Mais bon, enfin, l'endroit où on se réunit, il y a une densité absolument phénoménale de ces endroits. Souvent, ça peut être dans des petits villages, chez le boulanger ou qui fait en même temps cabaretier. Et au cabaret vont aussi bien les hommes que les femmes. c'est pas un monopole masculin comme cela, comme les cafés l'ont été au 19e siècle, pendant une bonne partie du 20e siècle, et les enfants aussi. C'est là qu'on apprend les comportements et on voit comment ça fonctionne. On apprend les règles implicites, si vous voulez, les règles implicites de la violence, de la pratique de la violence, donc qui, je le répète, n'est pas quelque chose de fruste ni de débridé, et qui, dans la plupart des cas, aussi, suppose une égalité entre les protagonistes. Il y a une sorte d'honneur de la violence aussi, qui fait qu'on admet parfaitement, et même on valorise une violence qui est faite face à face, sans traquenard, sans guet-apens, et surtout quand il s'agit de défendre, de rétablir l'honneur, alors qu'au contraire, on déprécie et on condamne une violence faite sans avoir laissé sa chance à l'adversaire, donc une violence faite par guet-apens, ou une violence faite par le poison, ou des choses comme ça. Et je vous parlais du chiffre noir, ce qu'on constate très bien, c'est que, en fait, ce qui est porté en justice, les homicides portés en justice, par exemple, en général, ce sont les homicides déloyaux que la communauté n'admet pas parce que ça n'a pas respecté les règles de vie. En revanche, l'homicide loyal, résultat d'une rixe, homicide en général involontaire, parce que, au départ, celui-là, il n'est pas porté en justice du tout. Deuxième partie, donc, je voulais vous parler des catégories et des circonstances de violence. Pour vous montrer là aussi qu'entre ce qu'on perçoit 3 siècles après, 4 siècles après, voire 5, et ce que percevaient les ruraux de l'époque, les choses ne sont pas forcément les mêmes. Il y a une différence entre les apparences et la réalité. D'abord, les catégories de violence. Il y a une hiérarchie de la violence apparente, une hiérarchie de la violence qu'on retrouve en justice, et qu'on retrouve dans les ouvrages des historiens bien souvent, qui est une gradation. Bon, la violence est d'abord une violence verbale, donc ce sont les injures ou les insultes, enfin, comme vous voulez, que beaucoup se sont plu d'ailleurs à étudier de près, parce que c'est toujours assez pittoresque et assez amusant. Je ne vais pas faire une liste, mais globalement ça tourne essentiellement autour des injures à caractère sexuel, en très grande majorité. Donc aux femmes, on reproche surtout des mauvaises, entre guillemets, mœurs, donc aux femmes mariées de tromper leur mari, aux jeunes filles d'être des prostituées, etc., en termes plus fleuris que ce que j'emploie ici. Et aux hommes, on reproche surtout des mœurs contre nature, c'est-à-dire l'homosexualité, quoi, tout simplement. Bon. Et puis, accessoirement, il y a des injures qui portent sur l'apparence physique, sur le métier, sur l'honnêteté, etc., mais c'est essentiellement des injures sexuelles. Bon, l'injure serait le premier niveau, si vous voulez, de la violence. Le deuxième niveau, c'est la menace. Donc, la menace qui peut être exercée en face, ou la menace qui peut être exercée de façon indirecte. On parle, on est au cabaret, on dit, ben celui-là, je sais pas, je brûlerai sa maison, je le tuerai un jour, etc. Bon. Et la troisième étape, c'est le passage au coup. Le passage à la violence physique, ainsi avec toutes les gradations possibles. Alors cette hiérarchie-là, c'est celle de la justice. C'est celle souvent que les historiens suivent. Mais en fait, c'est pas vraiment celle que perçoivent les ruraux. Les citadins non plus, d'ailleurs, aussi. Là, sur ce point, il n'y a pas de différence à faire. D'abord, je vous précise une question de vocabulaire. Dans le vocabulaire de l'époque, injure, ça peut signifier aussi bien l'injure verbale que les coups. Donc, alors, c'est précisé souvent injure verbale ou injure réelle. L'injure réelle, c'est les coups. L'injure verbale, c'est par la parole. Donc, ça peut être dans un document, ça peut être un piège, ainsi. Mais concrètement, les ruraux perçoivent, dans la majorité des cas, c'est ce qu'on voit quand on a des témoignages et qui racontent ce qui s'est passé dans telle bagarre ou dans tel incident, l'injure verbale est perçue comme plus grave que l'injure réelle, c'est-à-dire que les coups. On est dans une société beaucoup plus rude que la nôtre. Nous, le moindre coup, on se met à hurler. Chez le dentiste, on nous anesthésie et arracher une dent, aujourd'hui, c'est presque devenu un plaisir. Enfin, c'est rien du tout. à l'époque, les dents, on les arrachait comme ça. Hein, et puis voilà, et puis on n'en parlait plus. On n'en faisait pas une histoire. On amputait un sein quand il y avait un cancer du sein et sans anesthésie. Bon, il y avait quelques drogues, mais c'était pas extrêmement efficace. Enfin, toutes les opérations se faisaient, les amputations se faisaient ainsi. L'hiver, quand il faisait moins 10 dehors, maintenant il faisait moins 5 ou 0 à l'intérieur de la maison. Bon, enfin, c'est une sensibilité qui n'a aucun rapport avec la nôtre. Donc, prendre un coup de temps en temps, une bagarre, etc., c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est pas quelque chose de vraiment choquant. En revanche, qu'on doute publiquement de son honneur, c'est-à-dire qu'on se fasse injurier par quelqu'un devant des spectateurs, ça, c'est pas admissible. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas tolérer. Parce que si on le tolère, eh bien, on risque de se faire exclure de la communauté, tout simplement, d'une façon ou d'une autre, parce qu'on n'est plus digne de cette communauté. Donc, il faut rétablir l'équilibre et pratiquer de la violence physique ensuite. Donc, les catégories de violence, la hiérarchie des violences, finalement, pour les ruraux, c'est d'abord, avant tout, le plus grave, c'est l'injure verbale. L'injure réelle, l'injure physique, vient après. Les circonstances de la violence, elles aussi, doivent être examinées avec un esprit critique. Quand on essaye de voir où et quand se passe la violence, on arrive, avec nos archives judiciaires, à des résultats qui sont assez nets, du moins en apparence. Mais vous sentez, vous voyez, vous pouvez commencer à comprendre ma façon de fonctionner. Je vais après essayer de vous montrer que ce qui est net est faux. Bon, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la violence, elle se passe surtout publiquement. Parce que la plupart des procédures, quand il y en a, concernent des violences publiques. Donc ça se passe à l'occasion des fêtes, ça se passe sur la place du village, ça se passe au cabaret ou plus encore à la sortie du cabaret. Bon, et ça s'est mal passé au cabaret, on a eu des mots avec quelqu'un, on l'attend dehors et puis bon, la bagarre va se passer là ensuite. Bon, quant au moment... les moments de la violence. Alors, dans l'année, c'est surtout pendant l'été, d'après nos archives judiciaires, à la belle saison, quoi, en gros, enfin, l'été au sens large, quand il commence à faire beau, jusqu'à ce qu'il fasse plus beau. L'hiver, on a très très peu d'affaires, en tout cas, beaucoup moins. Dans la semaine, c'est plutôt à la fin de la semaine, plutôt le dimanche. Et dans la journée, en fait, plus la journée avance, et plus la violence augmente. Et ça augmente au début de la nuit, en gros jusqu'à minuit, 1h du matin, et puis après ça retombe, et puis ça recommence pareil le lendemain ainsi. Alors, peut-on en conclure que ça se passe vraiment comme ça, en réalité ? En fait, ces constatations-là, elles révèlent surtout la connaissance des faits par la justice et par la société. En ce sens que je vous ai parlé de ces juges seigneuriaux, par exemple, qui viennent au village que de temps en temps, parce qu'ils habitent en ville. Bon, vous savez que les moyens de transport à l'époque, ils ne sont pas les nôtres non plus. Donc, en plein hiver, les routes, en tout cas, au moins jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, les routes, dès qu'il pleut, dès qu'il neige, tout ça, ben, elles sont extrêmement peu fréquentables. Par conséquent, nos juges seigneuriaux, qui sont des citadins, pas tous, mais... la majorité, ça dépend des régions, c'est variable, mais en gros, c'est quand même la majorité, ne vont pas ou vont très peu dans leur village dans lequel ils sont juges pendant la mauvaise saison. Ils y vont pendant la belle saison. Par conséquent, par définition, ils ont beaucoup plus de chances qu'on leur porte en justice les violences de la belle saison que celles de la mauvaise saison. Deuxième critique, c'est surtout que pour aller en justice, il faut des témoins. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne condamnait pas sans preuve dans la France d'Ancien Régime. Donc un aveu ou bien deux témoins directs, deux témoins qui ont vu le crime. Ou au moins un qui a vu et le deuxième à qui quelqu'un qui a vu a raconté le crime. Et si on n'a pas ça, ben on ne peut pas condamner. On ne peut pas. Donc, ces témoins, par définition, on ne peut avoir de témoins plutôt par définition que quand la violence est publique. Donc quand ça s'est passé sur la place du village ou que ça s'est passé au cabaret ou des choses comme ça. En revanche, toute la violence qui se passe au sein même des maisons, là, il n'y a pas de témoins. Quand le quand on bat, enfin, ben, le mari qui bat sa femme, par exemple, ça reste au sein de la maison. En plus, on considère, même si les voisins entendent des cris, on considère qu'on n'a pas à intervenir dans les affaires du voisin ainsi. Donc, toute la violence privée au sein des maisons ou des fermes, toute la violence qui se passe aussi dans les endroits isolés également, sur les grands chemins, par exemple, dans les forêts, dans les landes, ou des choses comme ça, enfin, ça dépend des régions, tout cela soit n'est pas connu, soit ne pourrait pas être prouvé en justice, ne pourrait pas, du moins, être, enfin, on ne pourrait pas condamner les responsables parce qu'on ne pourrait pas avoir les preuves, tout simplement. Donc, ça biaise complètement notre façon de voir les choses, ça surévalue énormément la violence estivale par rapport à la violence hivernale. C'est pareil pour le dimanche. Bon, le dimanche, ben, les gens sont rassemblés parce qu'ils vont à l'église. En pays d'habitat dispersé, ben, on va tous... on quitte son hameau ou sa ferme. Donc, il y a des spectateurs. Il y a des spectateurs qui sont là, qui sont présents. Donc ils voient cette violence. En revanche, pendant la semaine, ben, chacun retourne dans sa ferme, fait ses propres travaux des champs. Et la violence qui peut se passer dans ces cas-là, il n'y aura pas de témoins non plus. Même chose pour ce qui se passe dans la journée. Pourquoi est-ce que la violence semble plus présente dans la soirée? Parce que dans la soirée, c'est le moment où on se retrouve au cabaret. Par conséquent, il y a des gens pour voir la violence. Alors que dans la journée, ben, on est isolé beaucoup plus et on a beaucoup moins de raisons de voir cette violence. Alors encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas peut-être plus de violence en été qu'en hiver. Peut-être, moi je veux bien. Je dis simplement qu'on n'a pas les moyens de prouver qu'il y a plus de violence en été qu'en hiver. On peut peut-être le supposer quand même parce que la belle saison, c'est l'époque où les rapports humains sont plus importants, où on se rencontre davantage. Donc peut-être que du fait qu'on se rencontre davantage, il y a plus de heurts qui peuvent se produire, donc plus de violence. C'est dit, ce n'est qu'une hypothèse. Tout simplement, il faut émettre l'hypothèse, mais les preuves ne sont pas véritablement présentes. Cette violence, elle n'est pas inutile. C'est ma troisième partie, c'est une transition plus ou moins subtile. Il faut passer à la troisième partie. Elle n'est pas inutile, elle est utile même. Et à condition qu'on la traite, à condition qu'on la contrôle. Donc c'est le problème de l'utilité du traitement de la violence dont je vais vous parler dans cette troisième partie. Alors, utilité de la violence. Là, je reprends en partie des choses qu'avait montré Robert Michelblé il y a une vingtaine d'années. J'en rajoute d'autres, enfin, qu'on a trouvées depuis. La violence, elle a une utilité, elle a une double utilité, en fait. Elle a une utilité interne et une utilité externe. Interne à la communauté villageoise et externe. Bon, je dis interne et externe parce que ça fait bien clair dans mon plan. Vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, interne, de quoi s'agit-il? Ben, la violence, elle sert à rétablir les équilibres rompus. Alors, on a déjà un petit peu abordé ça dans la première partie. Bon, quand l'honneur de quelqu'un a été attaqué publiquement, il faut rétablir cet honneur. Sinon, on risque de se trouver exclu de la communauté. On n'est plus digne de faire partie de la communauté. Pour ça, il y a deux moyens pour rétablir un honneur. Quand on s'est fait injurier, quand on s'est fait traiter de femme de mauvaise vie, de bougre. Le bougre, c'est homosexuel, ou bien pour un artisan, une injure pour un artisan, pour un cordonnier, c'est quelqu'un, un client qui vient... alors qu'il y a d'autres clients dans la boutique, et des cordonniers, il y en a beaucoup dans les campagnes, et qui dit, tu m'as fait des chaussures là, et puis elles sont trouées, mes chaussures, enfin, c'est de la camelote que tu fais, etc. Dire ça en public, l'honneur professionnel est atteint, et de la réputation en plus. On ne peut pas laisser ça courir. Il faut rétablir, il faut montrer qu'on est un bon cordonnier. Il faut que l'autre avoue, que l'injurieur reconnaisse qu'il a eu tort, qu'il a injurié à tort, et qu'il faut qu'il le fasse publiquement devant les personnes devant lesquelles s'est passé l'incident. Alors pour ça, on a deux moyens possibles. Le premier moyen, c'est d'aller en justice. Donc c'est de porter plainte au pénal, ou bien de faire une assignation au civil, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails de cela, pour que les juges décident que l'injure était mensongère. Et que ce soit dit publiquement, qu'il donne une amende à l'injurieur et qu'il le condamne a proclamé publiquement devant les témoins de l'injure qu'il a eu tort de dire ça, que c'est pas vrai, que Attel fait des bonnes chaussures et pas des mauvaises, etc., etc. C'est le premier moyen, aller en justice. Je vous ai dit, aller en justice, c'est pas, on n'aime pas trop quand on est à la campagne, on préfère régler les choses entre soi. Ça va faire intervenir des gens de la ville, ça risque de coûter de l'argent. Si on gagne le procès, bon, c'est très bien, on va toucher l'amende et puis donc, ce sera très bien. Mais on n'est jamais sûr de gagner un procès. C'est pas parce qu'on dépose une plainte qu'on est sûr de gagner. Même si on est persuadé qu'on a raison, on ne sait pas l'issue forcément. Donc on peut être condamné aux dépens, on peut y perdre. Donc aller en justice, on hésite beaucoup à le faire. Seuls les gens les plus aisés le font éventuellement et encore pas forcément. Donc l'autre moyen, c'est quoi? L'autre moyen, c'est l'exercice de la violence pour établir l'honneur. Donc ça va être la bagarre, la rixe. Alors soit soi-même, l'injurié, soit par personne interposée. Donc un mari, un frère, un oncle, enfin un allié ou des choses comme ça. Bon, pour arriver à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire mettre à terre l'injurieur et le forcer à dire devant tout le monde: j'ai eu tort, tu n'es pas un mauvais cordonnier, tu es une femme, ta femme est fidèle, ou enfin, des choses comme ça. Donc on rétablit ainsi la réalité. Donc la violence, elle sert ainsi à rétablir un équilibre rompu, un équilibre qui a été rompu par les mauvaises paroles ainsi, et elle aboutit à la réparation d'honneur. C'est un terme qu'on emploie aussi bien en justice qu'hors de la justice à l'époque, donc elle a son utilité, sa très grande utilité dans ce cas. Non seulement elle est utile, mais elle est souhaitée, elle est même applaudie par la communauté. Celui qui laisse son honneur bafoué, s'il le laisse bafoué, qu'est-ce qu'on en conclut? C'est que celui qui l'a injurié avait raison, et l'autre a admis, donc il n'a pas réagi, voilà, il est déshonoré. En revanche, s'il réagit, eh bien la communauté l'approuve, parce que chacun devrait en faire autant dans un cas similaire. Donc, utilité interne, utilité externe. La violence, elle sert à reconstituer éventuellement, et on en a besoin assez souvent, plus ou moins souvent, la cohésion sociale au sein d'un village, au sein d'une communauté rurale. Bon, dans toute communauté, il y a toujours des heurts, toujours des difficultés, il y a des problèmes pour telle ou telle raison, on se dispute, et ça peut parfois être tellement important que la vie dans la communauté devient impossible, enfin, ou au moins difficile. Par conséquent, eh bien là, il y a un moyen très simple de rétablir la cohésion. C'est un moyen qu'on emploie d'ailleurs pas simplement dans les campagnes et aussi en politique, jusqu'à aujourd'hui. Quand on n'est pas d'accord, eh bien on va se trouver un ennemi commun, tout simplement. Et l'ennemi commun, ça va permettre de rétablir la cohésion. Donc c'est la politique du bouc émissaire, tout simplement. Donc l'ennemi commun, c'est quoi? Eh bien c'est le vagabond qui passe. Il y a eu un crime important au village, par exemple. On ne sait pas qui l'a commis. Il y a eu un assassinat, par exemple. C'est rare, mais ça arrive justement. Alors, c'est tellement rare que c'est l'angoisse. Chacun se sent menacé. On ne sait pas quel est le coupable. Dans ces cas-là, donc chacun se méfie du voisin, etc., etc. Tous les liens sociaux se distendent. Ainsi, il faut rétablir tout cela. Et le moyen de rétablir tout ça, c'est de trouver un coupable, fût-il faux. Et le coupable idéal, c'est quoi? C'est celui qu'on ne connaît pas, celui qui n'est pas intégré, celui qui est là depuis peu, ou bien qui est de passage, tout simplement. Donc c'est le bouc émissaire, tout simplement. Et ainsi, la communauté s'unit violemment contre ce coupable, à qui on fait passer parfois un mauvais quart d'heure, voire qu'on tue tout simplement, discrètement. Parfois, on le sait en justice, parce que telle ou telle raison, bon, c'est passé en justice, mais dans un très grand nombre de cas, ça reste totalement inconnu, c'est un accident, et puis c'est tout. Voilà. Et puis, ça c'est un peu exceptionnel, l'assassinat, mais ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est dans cet ensemble, enfin dans cette même idée, rétablir une cohésion au sein de la communauté, c'est le rôle d'une partie des habitants du village, qui sont les jeunes gens, les jeunes hommes. Ceux qui ont atteint l'adolescence, mais qui ne sont pas encore mariés. Vous savez qu'on se marie tard dans les campagnes de la France, d'Ancien Régime, au XVIIIe siècle, enfin du XVIIIe, en moyenne, c'est 28 ans pour les garçons. Au début, c'est 26 ans. Donc, c'est la moyenne. Donc, certains, ils attendent 32, 35 ans pour se marier, d'autres plus tôt, d'autres... Enfin, bref, ça fait, disons, entre 15 et 28 ans en moyenne, pas mal d'années. Et ces jeunes gens, ces jeunes hommes, ils sont regroupés dans des institutions qui sont reconnues officiellement, qui s'appellent les abbayes de jeunesse ou les bachelleries, enfin ça dépend des régions. Et l'un des rôles de ces abbayes de jeunesse, c'est de porter l'honneur du village. L'honneur du village contre... enfin de défendre l'honneur du village contre les villages environnants. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des fêtes de village et que dans les fêtes de village viennent les gens des villages d'à côté, et les jeunes gens en particulier. Et assez couramment, le soir des fêtes, ça se termine comment? Ça se termine par une rixe entre l'abbaye de jeunesse d'un village et l'abbaye de jeunesse d'un autre village. Et derrière chaque abbaye de jeunesse sont moralement et applaudissant et les autres habitants, donc les hommes mariés, leurs femmes, les vieillards, les enfants, etc. Donc ils portent l'honneur du village. Et ça permet ainsi, dans ces combats de groupe, de rétablir également une cohésion derrière ces jeunes gens. Donc c'est ça que j'appelle l'utilité externe. Externe parce que je veux dire que ça s'exerce contre des étrangers au village ainsi. Donc utilité de la violence, rétablir des équilibres rompus et la cohésion sociale. Alors, reste à savoir comment cette violence est traitée. Je vous ai dit qu'elle ne l'est pas dans la plupart des cas, puisqu'elle est valorisée dans la plupart des cas. Donc, c'est normal, on rétablit l'honneur par la violence. Ceci dit, la violence peut être excessive. C'est-à-dire que la violence excessive, c'est la violence qui n'est pas loyale, par guet-apens, comme je l'ai signalé il y a un instant. Et puis, il y a des individus qui sont trop violents. Donc, ces gens-là... Au départ, on les gère, au départ, on voit ça au sein de la communauté, mais progressivement, quand ils réitèrent leur violence, ils finissent par devenir des dangers pour l'ensemble de la communauté. C'est dans ce cas-là qu'il faut agir et qu'on traite la violence excessive. Alors là aussi, on a deux moyens. Premier moyen, les envoyer en justice. Donc on porte plainte contre eux. Et c'est la justice qui va s'en occuper. Donc la justice, bon, s'il y a eu 5, 10 affaires de violence, dans ce cas-là, les témoins vont abonder. Bien sûr, tout va être prouvé. On verra qu'il y a eu des récidives de violence, ce sera les galères, voire le gibet, donc on sera débarrassé du violent. Premier moyen. Bon. Ceci dit, là aussi, c'est quand même un peu risqué, puis ça fait surtout intervenir les juges au sein du village. On ne sait pas trop ce qui va se passer, on peut-être trouver d'autres affaires, ça ne va peut-être pas arranger tout le monde. Donc, il y a un autre moyen. L'autre moyen, c'est l'infrajustice. L'infrajustice, c'est trouver au sein du village quelqu'un dont on va décider qui va servir d'arbitre. Donc, il y a eu un conflit, ça a été excessif, c'est trop dangereux, il faut prendre des mesures. Donc, on choisit quelqu'un. Alors, ça peut être le curé, ça peut être le notaire, ça peut être le cabaretier, ça arrive parfois, quand on le prend comme arbitre, parce qu'il y a une bagarre, trop de bagarres au cabaret. Bon, enfin, quelqu'un qui a une réputation, quoi, d'être un sage, quoi, si vous voulez. Et avec cette idée, dès le départ, que sa décision aura force de loi, aura force de jugement, et qu'il faudra la suivre. Et c'est par ce biais, donc, de l'infrajustice que sont réglées sans doute la plupart de ces affaires. Alors, attention, n'imaginez pas qu'il y a une opposition entre justice et infrajustice, comme on l'a cru pendant pas mal de temps. C'est complémentaire. Une même affaire peut être traitée d'abord en justice, ensuite en infrajustice, parce que le juge estime que c'est pas assez grave, etc. Il est très fréquent qu'on veuille traiter une affaire en infrajustice, que l'une des deux parties le refuse. Dans ce cas-là, l'autre porte plainte, et celui qui a refusé se rend compte qu'il risque plus devant le juge que devant l'arbitre. Dans ces cas-là, il accepte de passer en infrajustice. Et les juges eux-mêmes poussent à l'infrajustice. Ils essayent en général d'accommoder les parties qui ne sont pas d'accord entre elles. Et s'ils n'arrivent pas à un accommodement, bon, ils commencent une procédure. C'est même précisé, c'est même demandé dans ce qu'est le grand texte qui organise la justice d'Ancien Régime, qui est l'ordonnance criminelle de 1670, qui prévoit de façon extrêmement claire que les juges doivent d'abord essayer d'accommoder les gens entre eux, y compris dans les affaires de violence. Et s'ils n'y arrivent pas, eh bien, ils peuvent juger, mais après simplement. Alors, sauf évidemment dans les affaires de très grande violence, quand il y a assassinat ou des choses comme ça. Dans ces cas-là, si un juge est au courant, il va traiter l'affaire. mais quand il est au courant d'une affaire de violence moins importante, il essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de procédure. La justice n'est pas demanderesse de procédure. La justice essaye de concilier, et la justice d'Ancien Régime n'est pas ou est peu coercitive. Elle l'est pour certains crimes, des crimes très importants qui sont jugés. Bon, il y a des gens qui n'ont pas de chance, quoi. Il faut faire un exemple de temps en temps. Donc on va rouer quelqu'un de temps en temps, on va pendre quelqu'un de temps en temps, c'est affreux, évidemment, tout ça, surtout pour nos sensibilités aujourd'hui, mais c'est ultra minoritaire. La plupart des criminels échappent à la justice et ça se résout autrement. Vous voyez, enfin, la justice dans ces régimes n'est pas l'horrible chose noire qui cherche à torturer, exécuter les gens qu'on présente très souvent. C'est pas du tout ça, c'est tout à fait autre chose. Même s'il y a quand même quelques supplices de temps en temps.